Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Claude Lehmann, qui va venir nous parler des silices et verres. Il est né en 1939, il est ancien élève de l'École normale supérieure, docteur en sciences, après des recherches effectuées au laboratoire de spectroscopie hertzienne de l'École normale supérieure, avec notamment Alfred Kastler. Son parcours est tout à fait intéressant et original, puisqu'il a été d'abord attaché, puis chargé de recherche au CNRS dans les années 60. Il a été ensuite peu de temps adjoint de l'attaché scientifique auprès de l'ambassade de France à Washington, maître de conférences et professeur titulaire à l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6, de 69 à 81, et 81 à 88, directeur scientifique du CNRS, de la direction du département mathématiques et physique de base. Et puis, en 1989, il est devenu directeur de la recherche de la compagnie Saint-Gobain, où il est actuellement, en fait, il occupe ses fonctions de directeur de la recherche. Sa spécialité, c'est la physique atomique et moléculaire, la science des matériaux, et il est passé à la recherche sur les silices et verres. Il est membre du Conseil national de la science, membre du Conseil des applications de l'Académie des sciences, et ses publications sont essentiellement des publications scientifiques techniques dans des revues spécialisées. Je lui donne la parole pour une cinquantaine de minutes, et puis ensuite, il répondra à vos questions. Merci.
Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous parler de silice et de verre, et nous allons essayer de balayer un ensemble de considérations. D'abord, des considérations scientifiques. Je vais tâcher de vous expliquer ce qu'est un verre. Nous ferons un peu d'histoire, parce que le verre est un matériau très ancien, qui a probablement encore d'ailleurs beaucoup d'avenir, et donc il est bon de le situer dans l'histoire. Et puis de la technologie. Peut-être jusqu'à présent, y a-t-il eu plus de science que de technologie dans ce cycle de conférences. Donc j'aimerais vous montrer un peu quelles sont les technologies qui permettent de faire le verre que vous utilisez quotidiennement pour faire des bouteilles, des vitres pour vos automobiles ou les bâtiments, de la laine de verre, etc. Et nous conclurons par la présentation de quelques produits verriers récents ou même en cours de développement à l'heure actuelle. Alors qu'est-ce qu'un verre ? Eh bien d'abord, quelques mots pour vous rappeler comment on passe en abaissant progressivement la température d'un gaz à un liquide, puis à un solide. Un gaz, vous le savez, c'est un ensemble d'atomes ou de molécules relativement libres qui se déplacent dans une certaine enceinte, librement et dans tous les sens, et pratiquement sans ou avec très peu d'interaction entre les différentes particules. Si vous abaissez la température de ce gaz, vous voyez apparaître, au fond du récipient, un liquide. Le liquide, ce sont les mêmes atomes ou molécules, mais qui cette fois-ci se sont déposés en quelque sorte au fond, mais d'une façon totalement désordonnée, en pouvant glisser librement les unes sur les autres. Il n'y a pas de liaison chimique entre ces molécules, et donc un liquide, ce sont des molécules qui en gros se comportent comme les billes dans un sac de billes. Et si vous avez un sac de billes, la forme des billes dans le sac peut se déformer, vous pouvez verser les billes exactement comme un liquide. Vous continuez à abaisser la température de ce liquide et à un certain moment, ce liquide, par exemple si vous prenez de l'eau, à 0 degré, ce liquide devient un solide, de la glace. Et là, le solide que vous obtenez dans les conditions habituelles de solidification est ce qu'on appelle un cristal. Et un cristal, c'est quoi ? Ce sont donc les mêmes atomes que tout à l'heure, mais qui cette fois-ci, d'une part, sont liés entre eux par des liaisons chimiques, donc ils sont fortement liés entre eux, ils ne peuvent plus se promener les uns par rapport aux autres. Et d'autre part, ce que vous voyez apparaître schématiquement ici, c'est que ces atomes ou ces molécules sont parfaitement ordonnés les uns par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle une structure de réseau cristallin qui a un ordre parfaitement déterminé. Donc ça, c'est ce qui se passe normalement. Et pourtant, il peut arriver que les choses se passent différemment. Alors, pour vous expliquer un peu les différences qu'il peut y avoir, revenons, ce sera la seule part de ma conférence où je vous montrerai une courbe un peu théorique. Je vous explique en deux mots de quoi il s'agit. Ici, vous avez en abscisse la température. Donc lorsqu'on passe d'un gaz à un liquide à un solide, on abaisse la température. En ordonnée ici, j'ai mis une variable thermodynamique qu'on appelle l'entropie, qui est quelque chose d'un petit peu compliqué, mais qui en gros est caractéristique de l'ordre d'un système. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous vous promenez le 14 juillet aux Champs-Élysées, par exemple, si vous regardez la foule qui circule sur les trottoirs de façon complètement désordonnée, Et si on mesure cette variable thermodynamique, l'entropie de cette foule, on verra que cette entropie est élevée. Elle est élevée parce que la foule est désordonnée. Et puis au milieu des Champs-Élysées, là vous trouvez les troupes en train de défiler, en rond par 16, parfaitement ordonnées. Et à ce moment-là, si vous mesurez l'entropie de ces troupes, elle est au contraire beaucoup plus faible parce que leur ordre est très grand. C'est un système ordonné. Eh bien, ce que je viens de vous expliquer dans le passage du liquide au solide est caractérisé par le fait qu'à une certaine température, qui est cette température de fusion où le liquide devient solide, brusquement, ce liquide qui était un ensemble complètement désordonné devient très ordonné. Et l'entropie que j'ai marquée ici s'abaisse brutalement. Alors, dans le liquide lui-même, elle s'abaisse progressivement parce que les molécules sont agitées par l'agitation thermique et quand on baisse la température, elle s'agite de moins en moins, ce qui donne un petit peu d'ordre supplémentaire. Mais en fait, l'acquisition de l'ordre se fait brutalement au moment où le liquide devient solide et puis ensuite, l'ordre continue à s'installer parce que là encore, les molécules vibrent un petit peu autour de leur position d'équilibre. Et au zéro absolu, tout ceci est parfaitement immobile et parfaitement ordonné, et l'entropie devient nulle. Alors ça se passe comme ça normalement, mais de temps en temps, ça se passe autrement. D'abord, une première chose qui peut se produire, c'est que vous refroidissez votre liquide. Au moment où vous pensez qu'il va se solidifier, à 0 degré pour l'eau, eh bien en fait, ça continue comme si de rien n'était, c'est-à-dire vous continuez à avoir votre liquide. Son entropie continue à diminuer régulièrement, mais vous n'avez pas ce saut brusque ni l'apparition du solide cristallisé. Et ceci arrive un peu plus tard, c'est-à-dire à une certaine température qui varie suivant l'expérience que vous faites. À un moment ou à un autre, on finit néanmoins par sauter, en quelque sorte, du liquide au solide et on reprend la courbe de diminution d'entropie du solide cristallisé. Ce phénomène est ce qu'on appelle le phénomène de surfusion et il se produit lorsqu'on a un liquide extrêmement pur, par exemple de l'eau distillée très pure, au lieu de se geler à 0 degré, va continuer à rester liquide à une température inférieure, puis brusquement se geler à une température inférieure à 0 degré. Ça, c'est un second cas de figure. Et puis, il y a un troisième cas de figure qui est celui-ci. Alors ça, c'est encore beaucoup plus curieux. On refroidit le liquide. Au début, il a l'air de commencer à suivre la courbe du liquide surfondu. Et puis, en fait, la courbe s'incline légèrement et on arrive sur une seconde courbe où l'entropie diminue plus faiblement et surtout ne se termine pas par une entropie nulle au zéro absolu. Et si on regarde le matériau que l'on est en train de refroidir, on s'aperçoit qu'ici, on a bien un liquide et dans cette partie-là, on a un fluide qui, de façon progressive, devient de plus en plus visqueux. Au lieu d'avoir brutalement un passage du liquide au solide comme l'eau qui devient de la glace, on a un liquide qui devient de plus en plus visqueux. Et arrivé ici, en fait, le liquide est devenu complètement solide. Donc on a un passage continu du liquide au solide à travers une phase où la viscosité augmente de plus en plus. Et dans cette phase-là, on a une espèce de pâte à modeler. Et quand on refroidit encore, ça se solidifie complètement. Alors qu'est-ce qu'on a obtenu ? Eh bien, on a obtenu ce qu'on appelle un verre. Et un verre, c'est quoi ? Eh bien, ça veut dire que ce passage continu, où il n'y a pas eu ce saut brutal d'entropie, en fait, il a gardé l'ordre, l'organisation du liquide. En réalité, on a pris le liquide et puis on a plus ou moins figé sur place tous ces atomes et toutes ces molécules. Donc, on a gardé un système qui est le sac de billes de tout à l'heure, complètement désordonné, mais figé, parce que des liaisons chimiques se sont produites entre les atomes et les molécules, et donc le tout s'est figé. Et c'est exactement ça qu'on appelle un verre, ou en langage plus savant, un solide amorphe. Alors voilà un exemple qui est celui de la silice. La silice, c'est un matériau qui est fait de silicium et d'oxygène, SiO2, et la silice est un des matériaux les plus courants sur Terre, puisque le sable, tout le sable, c'est de la silice. Donc on trouve énormément de silice. Eh bien, la silice est un matériau qui peut suivre, suivant les cas, les deux courbes. Soit la courbe qui conduit à de la silice cristalline, avec abaissement brutal de l'entropie, soit la courbe continue qui passe par une phase visqueuse et qui donne de la silice amorphe. Et ici, vous voyez de façon schématique la structure de la silice cristallisée, qu'est-ce qu'on appelle le quartz, dans lequel vous avez en noir des atomes de silicium et les ronds ici sont des atomes d'oxygène, et vous voyez qu'il s'agit d'une structure extrêmement régulière, un peu complexe, mais parfaitement régulière, qui est une structure cristalline. Si au contraire, vous vous débrouillez pour obtenir de la silice amorphe, c'est-à-dire un verre, à ce moment-là, vous avez les mêmes atomes, mais les liaisons chimiques existent toujours, mais la structure est beaucoup plus aléatoire, pour ne pas dire totalement déstructurée, et c'est exactement ce que l'on définit comme la structure amorphe. On dit qu'il n'y a pas d'ordre dans cette structure. Cette structure est ordonnée, cette structure est désordonnée. Donc on peut dire en gros qu'un verre est un liquide gelé, ou ce que les physiciens préféreront appeler un solide amorphe. Alors la silice est l'exemple le plus connu de matériaux qui peut soit donner du quartz, c'est-à-dire un cristal, soit donner du verre, c'est-à-dire la silice amorphe. Le problème de la silice, qui est aussi un de ses avantages, c'est que la fameuse température de fusion, c'est-à-dire celle à partir de laquelle le liquide commence à devenir solide, en passant par cette phase visqueuse, cette température est assez élevée, 1723 degrés. Et si l'on prend du sable dans le désert et qu'on veut le fondre, puis le laisser refroidir, pour obtenir le liquide, il faut le chauffer à 1723 degrés, ce qui est quand même une température assez élevée. Or, il existe un phénomène bien connu des physiciens qui est que l'on peut abaisser la température de fusion en mélangeant un matériau qui a une température de fusion élevée avec un autre matériau qui va avoir pour effet que le mélange des deux va avoir une température de fusion plus faible. Alors là, on commence à rentrer dans la notion de verre réel, c'est-à-dire ceux que vous utilisez quotidiennement, qui au lieu d'être de la silice pure dont la température de fusion est très élevée, et de la silice auquel on a ajouté un fondant, quelque chose qui lui permette de fondre plus facilement. Et ces fondants sont essentiellement des oxydes d'alcalin, c'est-à-dire de la soude ou de la potasse, de l'oxyde de lithium, ce qui permet, en mélangeant du sable et l'un de ses composants, par exemple de la soude, d'abaisser la température frontière entre le solide et le liquide jusqu'aux environs de 1100 degrés dans les cas les plus favorables. Alors cette fois-ci, si vous mélangez de la silice et de la soude solide, vous chauffez, tout ça devient liquide vers entre 1100 et 1500 degrés, disons, 1100 et 1300. Donc c'est beaucoup plus abordable. Vous avez ce liquide et si vous le laissez cette fois-ci refroidir, vous obtenez un verre dont la composition devient déjà un peu plus complexe puisque vous avez du silicium, de l'oxygène, mais aussi du sodium ou du potassium ou du lithium et souvent tout ça à la fois. Et puis pour avoir un verre réel, il faut encore rajouter un certain nombre de constituants. Alors on rajoute des tas de choses, je vous en donnerai un exemple dans une seconde, qui permettent de donner au verre que vous utilisez les propriétés que vous voulez. Alors ces propriétés sont soit des propriétés optiques, on peut vouloir que le verre soit plus ou moins coloré, plus ou moins transparent, soit des propriétés mécaniques, on peut vouloir que le verre se casse plus ou moins facilement, que sa surface soit plus ou moins rayable, soit des propriétés chimiques, par exemple on souhaite souvent que le verre soit inaltérable, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas être attaqué par des acides ou même par l'humidité de l'air. Alors, on rajoute pour ça tout un tas de constituants qui font, d'une certaine façon, l'art du verrier et qui permettent d'avoir un mélange qui fond à une température raisonnable, donc entre 1100 et 1300 degrés, et qui, au refroidissement, soit un verre ayant les propriétés que l'on veut. Alors, exemple d'une composition d'un verre réel, qui est ce qu'on appellerait un verre silico-sodo-calcique, parce que ses principaux constituants sont toujours la silice, mais cette fois-ci de la soude, qui sert donc à abaisser la température de fusion, et de la chaux, qui donne un certain nombre de propriétés, notamment des propriétés de résistance chimique de la surface à l'attaque hydrolytique. Et puis on rajoute en général d'autres choses, de l'oxyde de potassium, de la magnésie, de l'alumine, et souvent trois ou quatre autres constituants qu'au fil des siècles, les verriers ont appris à mettre dans leur composition derrière pour obtenir les verres qu'ils veulent. Et vous voyez que cette composition, alors les pourcentages sont ici, c'est déjà une composition à 6 constituants, et un verre est très souvent une composition à 10 ou 12 ou 15 constituants qui chacun ont leur rôle. Alors que peut-on dire, maintenant que nous savons en gros ce qu'est un verre, quelles sont, au fond, les principales propriétés d'un verre par rapport à d'autres matériaux? Bien, première propriété, je vous l'ai déjà donnée, elle est très importante, c'est la phase visqueuse. Cette phase visqueuse, c'est ce qui permet, en réalité, de rendre le verre, de donner au verre la qualité d'un produit industriel très spécial, parce qu'on peut le former dans cette phase visqueuse. Vous avez, à une certaine température, une sorte de pâte à modeler, certes chaude, aux environs de 100 degrés, mais vous pouvez lui donner la forme que vous voulez, en faire une bouteille, en faire des fils, en faire du verre plat. Et ça, c'est ce qui fait la technologie verrière dont je vais vous parler tout à l'heure. Ceci n'existe pas dans un solide cristallisé qui passe très brutalement de la phase liquide à la phase solide. Donc cette phase visqueuse intermédiaire est l'une des caractéristiques principales des verres. Deuxième type de propriété, c'est un matériau transparent. Nous le savons tous, il y a un certain nombre de matériaux transparents, mais évidemment l'acier, le bois ne sont pas transparents. Le verre est transparent et en plus peut prendre toutes les colorations possibles que l'on peut avoir envie de lui donner. C'est un matériau dur. Le verre est dur en ce sens que vous ne le rayez pas avec votre ongle. Sa surface est peu rayable. Alors, par contre, inconvénient du verre bien connu, il est fragile, c'est-à-dire que si vous laissez tomber un morceau de verre, généralement il se casse. Ceci n'est d'ailleurs pas une propriété intrinsèque du verre lui-même. La structure amorphe serait intrinsèquement très solide, mais il s'agit de propriétés qui sont liées à la présence de défauts à la surface du verre. Et vous avez peut-être remarqué que si sur votre pare-brise, vous avez un petit défaut dû à un gravillon qui a sauté sur votre pare-brise, ce petit défaut peut souvent donner lieu à une rayure qui se propage très très lentement, quelquefois en plusieurs jours ou en plusieurs semaines, et qui finit par aboutir à une catastrophe. C'est cette propagation des fissures à la surface du verre qui le rend en réalité fragile. Et si on sait supprimer ces fissures, le verre devient un matériau qui est beaucoup plus résistant. Alors c'est un matériau complexe. Vous avez vu, 6 constituants c'est le minimum, en général c'est 10 ou 12. Ça n'est pas un matériau pur comme le fer ou comme l'aluminium, encore que là encore on rajoute généralement des composants mineurs, mais là il y a une foule de composants au départ. Néanmoins, c'est un matériau très bon marché. Le verre, ça se vend au kilo au même prix que les pommes de terre. Quelques francs par kilo de verre, je ne sais pas quel est le prix de la pomme de terre, mais aujourd'hui le verre plat sortant d'une usine, ça doit être à 5 francs le kilo. Donc ça reste un matériau très bon marché, ce qui évidemment est très important sur le plan de ses applications industrielles. Alors moi, je considère que c'est un matériau qui est beau. Je suis un peu de parti pris puisque je suis verrier, mais je pense que c'est ce qui fait aussi le succès du verre dans de nombreuses applications. C'est un matériau qui a une beauté particulière. Enfin, c'est un des matériaux les plus anciens, mais aussi les plus modernes. Je vous en donne 2 illustrations. Voici cette fois-ci un autre exemple de composition verrière, un peu plus compliqué que le précédent, mais pas beaucoup. Il y a 1 ou 2 composants de plus, de l'oxyde de fer en particulier. Ça, c'est la composition d'un verre actuel industriel. Voici la composition d'un verre trouvé sur un chantier de fouilles correspondant au 4e siècle en Palestine. Eh bien, si vous regardez, vous apercevrez que les compositions sont extrêmement voisines. Donc, d'une certaine façon, on peut avoir tendance à dire que les verriers n'ont rien inventé. La composition des verres actuels est bien souvent extrêmement voisine de la composition de verres très anciens. Donc vous allez me dire, c'est un matériau qui n'a pas évolué, qui est ringard, c'est toujours le même. C'est donc un matériau qui est plutôt en fin de vie. Alors je vous contredis immédiatement avec cette courbe. Cette courbe montre autre chose. Elle montre la transparence du verre, peu importe les unités. Verticalement, plus vous êtes haut, plus le verre est transparent. Cette fois-ci, l'évolution avec le temps de la transparence des meilleurs verres. Le verre est né, je vais vous le rappeler dans une seconde, environ 2500 avant Jésus-Christ. Et les verres de l'époque étaient complètement opaques. Il n'était pas question d'en faire des vitres, ils étaient complètement opaques, dus à toutes sortes d'impuretés. Et puis, au fil des années, les gens ont appris à rendre le verre de plus en plus transparent. Et vers les années 60, on avait obtenu la transparence de ce qu'on appelait les verres d'optique, ceux qu'on utilise pour les lentilles des appareils photo ou des appareils d'optique ou des lunettes astronomiques qui ont une transparence considérée comme extraordinaire et on pensait être à peu près au bout des progrès que l'on pouvait faire en transparence. Et puis à cette époque sont nés les lasers, ont été découverts les lasers et on s'est dit que les lasers qui émettent de la lumière pouvaient être utilisés pour transporter de l'information dans des fibres de verre, les fibres optiques qui sont maintenant assez répandues et qui permettent de transporter de la lumière d'un point à un autre sur des distances qui sont aussi grandes que possible. Or, aujourd'hui, une fibre optique, ça transporte de la lumière sur plusieurs centaines de kilomètres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les verres que l'on a développés pour ces fibres optiques, ils transportent toute l'énergie pratiquement sur des centaines de kilomètres et que donc la transparence de ces verres, ici, c'est la transmission qui est, pour un verre typique de fibre optique, de 96% de l'énergie transportée sur un kilomètre. Ça veut dire quoi ? Pour prendre en dehors des chiffres. Ça veut dire que si vous prenez le verre d'une fibre optique et que vous en faites une vitre, par exemple, si vous vous laissez, ce n'est pas très facile, une vitre qui aurait plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur serait aussi transparente qu'une vitre de quelques millimètres d'épaisseur comme celle que vous avez à vos fenêtres. C'est vous dire les progrès fantastiques qui ont pu être faits sur ce paramètre-là, qui est la transparence du verre, du fait de la nécessité de faire des fibres optiques. Donc, cette fois-ci, je vous dirais que c'est plutôt un matériau qui a un potentiel d'amélioration de ses performances fantastique. Alors, ceci me conduit à vous faire un peu d'histoire. Rapidement, quelques exemples de verre. Voici, comme je vous l'ai dit, le verre est probablement né en Mésopotamie ou en Égypte, il y a près de 5000 ans. Et on pense, c'est de l'histoire plutôt, la légende qui dit que ce seraient des marchands qui transportaient du natron, qui est en fait un carbonate de sodium, qui était utilisé d'ailleurs en particulier pour faire les momies égyptiennes, et qui étant dans le désert, ont fait un feu pour cuire leur dîner le soir, et ont posé leur casserole sur des blocs de natron qu'ils transportaient. Comme le natron, c'est du carbonate de sodium, le sodium, je vous ai dit, c'est un fondant, donc au contact du sable, la silice du sable et le sodium du natron ont permis à ce mélange de fondre à la température du feu utilisé par les marchands de natron. Et le matin, ils ont retrouvé des morceaux brillants qu'ils ont trouvé assez beaux, qui étaient du verre. Et on prétend que c'est comme ça que le premier verre est apparu dans l'histoire de l'humanité. Et le verre est d'ailleurs une invention de l'Occident, contrairement au papier, par exemple, qui est une invention de la Chine. La Chine est venue beaucoup plus tardivement que l'Occident au verre. Alors voici, au départ, on n'en faisait que des objets de la verroterie, disons, des objets de décoration. Voilà un exemple assez rigolo, des petites figures multicolores datant du VIe siècle avant Jésus-Christ, d'origine phénicienne. Alors ça, c'est une image qui a induit en erreur les scientifiques pendant longtemps, parce que c'est en fait un bas-relief égyptien, et les gens ont pendant longtemps pensé qu'il s'agissait de souffleurs de verre. Alors je vous la montre, pour vous dire simplement que ce ne sont pas des souffleurs de verre. En réalité, ce sont probablement des gens qui attisent un feu pour de type plutôt métallurgique avec une canne. Et ceci pour vous dire que le soufflage du verre, c'est-à-dire le fait d'avoir une petite goutte de verre au bout d'une canne dans laquelle on souffle pour faire une boule creuse à partir de laquelle on fait une bouteille, le soufflage du verre est apparu plus tard, il est apparu au 1er ou au 2e siècle de notre ère. Avant ça, on faisait déjà de magnifiques objets en verre. Voici un bol à pied qui était moulé puis poli autour du 2e siècle avant Jésus-Christ, qui est d'une qualité tout à fait extraordinaire. Je vous montre encore quelques objets. Ça, c'est un vase qui date du 1er siècle après Jésus-Christ, qui est en fait un espèce de camé de verre avec un verre noir et un verre blanc soudés l'un à l'autre et qui est de toute beauté. Ça, c'est encore plus extraordinaire. C'est en fait un bloc de verre travaillé. C'est du 4e siècle, c'est l'époque romaine. Et tout ça, c'est du verre. Les anneaux sont en verre, les lettres sont en verre. C'est un bloc de verre unique qui a été travaillé pour faire cet objet absolument splendide. Alors, cette fois-ci, c'est la plus ancienne représentation connue d'un four verrier et d'un souffleur de verre. Ça, c'est un manuscrit du 11e siècle. Et on voit là, cette fois-ci, un four qui est déjà un petit four industriel et un artisan qui fabrique des pots ou des bouteilles. Puis naturellement, vous savez que le 13e siècle, 12e, 13e siècle a été la grande époque des cathédrales et les vitraux sont évidemment une des plus belles réalisations verrières que l'histoire a connues. Enfin, je terminerai ce très rapide tour historique par un objet que vous pouvez voir juste à côté. Là, je fais la publicité du Musée national des arts et métiers, qui a été refait récemment, qui est magnifique. Et vous y verrez cet objet dont je ne vous ai représenté qu'une moitié, parce que je n'avais pas une photo complète, qui est en fait un lion et un serpent, fabriqué en 1855 par M. Lambourg, qui est entièrement en fil de verre, du verre filé, qui a été utilisé pour faire tout, les poils du lion, les écailles du serpent, les yeux du lion, etc. C'est un objet de toute beauté qui a demandé 3 ans de travail et que vous pouvez voir au Musée des Arts et Métiers. Voilà un peu d'histoire. Je vais encore vous en mettre un tout petit peu maintenant dans la partie technologique. Mais ce que je voudrais maintenant, parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez présenté, c'est vous expliquer ce que sont les technologies industrielles qui permettent de faire les verres que vous utilisez. Alors ça, vous voyez, je n'arrive pas à me sortir de l'histoire. Ça, c'est une première vue qui vous montre la façon dont on faisait des plaques de verre plat au début du XVIIIe siècle. On coulait du verre sur une grande table, et puis ici, vous apercevez un rouleau que l'on roulait, on laminait ensuite le verre pour en faire une grande plaque de verre qui était une plaque très rugueuse, de très mauvaise qualité de surface, mais qui permettait déjà de faire de très grandes plaques. Ce qui était important, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, parce que je vais vous dire tout à l'heure comment on faisait avant ça les pièces de verre plat. Alors tout commence dans les technologies verrières par un four. Il faut donc mettre tous les éléments de la composition, la silice, le soude, la potasse, la chaux, l'alumine, les oxydes de fer, toute la composition du verre, et puis chauffer tout ça aux environs de 1300 degrés en général, pour fondre et faire du verre liquide, que ensuite on transformera dans sa phase visqueuse en objet que l'on veut faire. Donc tout commence par un four, et ici vous êtes à l'intérieur d'un four verrier. Un four verrier industriel, ça fait de l'ordre de 100 mètres carrés, un bel appartement. Il fait très chaud, hein, 1300 degrés, voire plus. Et vous avez ici des brûleurs des deux côtés qui amènent la température. Et là, vous voyez la surface du verre, avec ici, il y a un peu de mousse dessus. Là, vous voyez une surface libre. Il y a la composition qui est en fait de la poudre que l'on répand dessus. Et dans cette immense enceinte, on fond du verre. Et le verre, d'ailleurs, circule très, très lentement dans ce four. En gros, entre le moment où on verse la composition et le moment où le verre sort du four, il se passe 24 ou 48 heures. Alors maintenant, je vais vous décliner la façon dont, à partir du verre visqueux, on fait les différents objets verriers. D'abord, le verre plat. Le verre plat, c'est les vitrages pour le bâtiment ou l'automobile en particulier. Alors, jusqu'au XVIIe siècle, la seule méthode pour faire du verre plat, c'était de souffler une goutte de verre pour en faire un cylindre. On coupait ce cylindre sur une génératrice et on le réchauffait légèrement pour qu'il s'ouvre. Et il s'ouvrait pour faire une pièce de verre plus ou moins plat et surtout très petit. Et puis est apparu le procédé que vous avez vu il y a une seconde de verre coulé sur table et laminé, qui a permis de faire de grandes pièces. Au passage, en 1665, a été créé par Colbert la Manufacture Royale des Glaces, qui est aujourd'hui le groupe Saint-Gobain, qui est une des plus anciennes entreprises industrielles privées du monde même, puisqu'elle exerce en partie le même métier. Nous faisons toujours beaucoup de verre au bout de 340 ans, ce qui n'est pas extrêmement fréquent. La seule différence, c'est que la Manufacture Royale des Glaces avait une ou deux installations très modestes et qu'aujourd'hui, nous devons avoir 150 000 personnes travaillant à travers le monde. La technologie jusqu'aux années 60 était le verre coulé et poli, un peu comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on le coule sur une table ou pas et ensuite on le polit. Ensuite est né un procédé que je vais vous décrire dans une seconde, qui est le procédé float, qui est très spectaculaire. Mais avant ça, je ne résiste pas à vous montrer une des étapes du polissage du verre dans l'ancien procédé, qui consistait à prendre une grande plaque, à la poser sur un support en bois, puis ensuite à la polir avec toutes sortes de machines. Et pour qu'elle soit parfaitement polie, il fallait qu'elle adhère parfaitement à son support. Et la façon de la faire adhérer à son support, j'ai trouvé un film que je voudrais vous montrer qui montre comment ça se passait. Alors, voyez, on pose la lame de verre, et ensuite, voilà. Alors, les ouvriers en sabots se promènent sur la plaque de verre pour la coller sur la plaque. Je pense que celui qui n'a pas des sabots doit être le directeur de l'usine. C'est ce qu'on appelle la danse des sabots. Ça n'est plus beaucoup pratiqué, je sens que ça vous plaît, donc je vous le repasse une fois, parce que c'est tout de même joli. Au risque de dépasser mon temps pour la 5. Donc vous ne verrez plus ça aujourd'hui dans nos usines, mais au début du siècle, vous trouviez encore cette danse des sabots exécutée dans les usines de Saint-Gobain. Il paraît même qu'on chantait pour encourager les ouvriers, mais ça, je n'ai pas le son, malheureusement. Alors maintenant, je passe à une méthode plus moderne, qui est le procédé float. Alors le procédé float, il est schématisé ici. Alors d'abord, il faut que vous compreniez bien que tout ça, c'est une usine de 400 ou 500 mètres de long, qui commence par l'enfournement, c'est-à-dire on rentre les matières premières dans le four. Alors voilà en gros le four. Four en bleu, vous avez le verre fondu, les brûleurs qui sont par là. Et ici, le verre sort du four ici. Il sort vers 1100 degrés et on le verse sur ceci qui est en fait un bain d'étain liquide. Donc le métal éteint portait une température quelle qu'il est. On verse le verre sur ce bain d'étain liquide. Le verre s'écoule sur ce bain, refroidit, et arrivé au bout, il est à 600 degrés, donc il est solide. Donc ceci est la phase de solidification du verre fluide, et une fois qu'il est solidifié, on le fait passer dans un four de recuit pour diminuer les contraintes internes. C'est ce qu'on appelle l'étendrie. Là, vous voyez une coupe perpendiculaire. En réalité, la largeur de la feuille, donc perpendiculairement à cette vue-là, est de 3,20 m. Donc vous avez 3,20 m de verre qui coule en continu sur ce bain d'étain fondu qui sort à peu près à la vitesse d'un homme au pas, et ceci 24 heures sur 24, 365 jours par an, pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, on casse tout et on reconstruit. Et c'est ce qui permet... Et alors, l'intérêt de ce procédé, c'est que le verre qui sort là, pour des raisons un peu compliquées à vous expliquer, est entièrement, parfaitement poli sur les deux faces. Il n'y a plus besoin de le polir, il est exactement comme vous le voyez dans vos fenêtres. Et c'est ce qui permet d'obtenir un verre à très bon marché, comme celui que vous pouvez avoir aujourd'hui. Donc voilà la technologie verre plat. Les grandes applications du verre plat, c'est les bâtiments, voilà le siège social de Saint-Gobain, et l'automobile, vous avez là un exemple d'automobile, vous voyez qu'il y a beaucoup de verre. Je vous ai simplement remis ici un bâtiment ancien, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de verre, et une automobile ancienne où la seule partie en verre est ce tout petit pare-brise-là. Inutile de dire que les verriers sont assez satisfaits de cette évolution des marchés. Et aujourd'hui, l'inclinaison des pare-brises augmentant environ d'un degré tous les deux ans, il y a de plus en plus de verre dans les automobiles, et les architectes continuent à apprécier le verre pour les bâtiments. Alors je passe aux bouteilles maintenant. Alors, comment fait-on des bouteilles? Eh bien, on utilise toujours le soufflage dont on a parlé tout à l'heure, mais entièrement automatisé. Et je vous décris l'un des procédés, il y en a plusieurs, ce qu'on appelle le procédé soufflé-soufflé. Qu'est-ce qui se passe? On part d'une goutte de verre en noir ici, vous la verrez tout à l'heure, j'ai un petit bout de fil aussi, qui tombe dans un moule, dans un premier moule, et on ferme le moule et on souffle par le bas. Et en soufflant, on crée un verre creux qui est en fait une préforme de la bouteille finale. Ça n'est pas encore la bouteille finale, et en plus, elle est la tête en bas. Comme elle est la tête en bas, on la saisit, on la bascule, et on la met dans un second moule, qui est ici. Vous voyez cette préforme ici. Cette fois-ci, on souffle par le haut, et on obtient la bouteille définitive que vous voyez ici sortir de la machine. Donc, c'est procédé en deux temps. On souffle une préforme, on la bascule dans un second moule, et on souffle la bouteille définitive. Alors j'ai là un petit film aussi qui va vous montrer un petit peu, comment, voilà une machine à faire des bouteilles. Vous voyez que ça sort beaucoup de bouteilles, ça sort 1 million de bouteilles par jour, une machine comme ça. Hein. Alors voilà les gouttes qui tombent dans le moule, on ferme le moule, tout ça va très vite. Hein. Alors voilà, ça explique comment ça se passe, donc vous avez retrouvé le moule, on souffle par le bas, la goutte de verre est là, et elle devient cette préforme. On la bascule, voilà le basculement, toc, dans le second moule. Là, un peu de mécanique. Et vous voyez la bouteille qui est... Voilà, vous avez vu la préforme et la bouteille définitive. Alors, dans le second moule, voilà ce qui se passe. La préforme est soufflée et prend la forme du second moule. Et une fois qu'elle est formée, on la sort et la voilà qui sort. Elle est encore très chaude, d'ailleurs. Vous voyez que ces bouteilles sont encore toutes rouges parce qu'elles sont très chaudes. Et voilà comment sortent les bouteilles à un rythme d'environ 1 million de bouteilles par seconde d'une usine de verre. Par jour, excusez-moi. Emporté par mon élan, 1 million par jour. Mais ça, c'est pour demain, 1 million par seconde. Je viens maintenant à un troisième type de produits verriers, les fils et les laines de verre. Vous savez qu'aujourd'hui, presque tous les matériaux plastiques que vous utilisez et qui ont une certaine propriété mécanique, les skis par exemple, les bateaux en plastique, sont en fait du plastique renforcé par des fils de verre. Parce que le plastique lui-même a des propriétés mécaniques insuffisantes et que le verre ayant en fait des propriétés mécaniques intrinsèquement très bonnes, si on mélange des fils de verre à l'intérieur du plastique, on ne les voit pas, mais elles donnent au plastique des propriétés mécaniques tout à fait extrêmement importantes, très supérieures au plastique tout seul. Et aujourd'hui, la plupart des grands produits en plastique sont en fait dans ce type de matériaux qu'on appelle des matériaux composites. Composite parce que c'est du plastique et du verre, et des fils de verre. Alors comment fait-on les fils de verre correspondants? Eh bien là encore un schéma un peu simplifié, je vous ai remis le four là, la composition, donc on rentre la composition, le verre qui sort liquide ici, et ici on a une filière de fibrage, c'est-à-dire en fait une espèce de bloc de platine percé de plusieurs milliers de petits trous. Et le verre s'écoule par ces petits trous et on le recueille sur des bobines en bas. Alors vous voyez ici, peut-être pas très, très visible, la filière en question. En fait, on ne voit pas les trous parce qu'il y a des milliers de trous ici. Et vous ne voyez pas non plus les fils parce que ces fils ont de l'ordre du micron de diamètre. Donc vous avez ici plusieurs milliers de fils, chacun d'un micron de diamètre, qui défilent à peu près à 100 km à l'heure. Ça va très vite. Et qu'on bobine sur des bobines en dessous. Et vous obtenez... ceci. des bobines de formes diverses, ce qu'on appelle des copes. C'est en fait exactement de la filature, mais de la filature avec du verre au lieu d'être de la filature avec des matériaux synthétiques comme les plastiques eux-mêmes ou des matériaux naturels. Vous avez aussi des voiles comme ça, et ces fils ou ces voiles de verre sont ensuite incorporés dans du plastique. Enfin, dernier procédé que je voudrais évoquer, la laine de verre. Peut-être vous montrer d'abord les produits. La laine de verre, vous connaissez tous les produits de laine de verre. Voilà différents produits qui sont des produits qui sont utilisés pour isoler thermiquement et pour l'isolation acoustique des bâtiments ou des automobiles en particulier. Alors comment fait-on cette laine de verre? Eh bien là, le principe est le suivant. Là, je n'ai pas remis le four. Le four est là-haut. On a un filet de verre qui tombe ici. Dans une espèce de... Ici, vous avez un petit baquet, là, percé lui-même de trous, et une espèce d'assiette renversée qui est ici, également percée de petits trous. Et tout ça tourne à grande vitesse. Donc, vous les voyez ici. Voilà ce qu'on appelle le panier. Voilà ce qu'on appelle l'assiette. Tout ça tourne très, très vite. Le verre est éjecté de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de cette assiette. Puis, on le voit ressortir ici par les milliers de trous de l'assiette. Il y a ici des brûleurs qui le soufflent vers le bas, qui l'allongent. Et on voit ici les filets de laine de verre que l'on recueille en bas pour en faire le matelas de laine de verre de tout à l'heure. En fait, ce procédé est tout à fait analogue à un procédé que vous connaissez sûrement beaucoup mieux, qui est celui qui permet de faire la barbe à papa. C'est exactement le même procédé que pour la barbe à papa, sauf que ça se passe à 1100 degrés. Donc les produits sont ceux que vous voyez ici. Alors voilà quelques technologies verrières que je voulais vous présenter un peu rapidement. Et je voudrais maintenant terminer cette conférence en vous présentant quelques produits. J'ai fait une sélection assez rigoureuse de quelques produits qui sont soit aujourd'hui des produits sur le marché, soit des produits en cours de développement. Alors, premier produit que je voudrais vous présenter, celui-ci. Ces grands panneaux de verre sont opaques. Vous appuyez sur un bouton et ils deviennent transparents. Alors, si vous n'y croyez pas, je reviens en arrière et ça marche. Alors, si vous n'y croyez vraiment pas, je vous ai apporté un échantillon. Donc, vous pourrez voir, d'ailleurs, là, vous allez peut-être me voir à travers ce... Et vous pouvez venir le voir après la conférence. C'est ce qu'on appelle un vitrage électrocommandé. Comment fait-on ça? Eh bien, là, ça devient non pas une simple lame de verre comme celle qu'on utilise pour faire les vitrages habituels, mais un produit relativement sophistiqué qui est basé sur les propriétés des cristaux liquides. Vous connaissez tous les cristaux liquides qui sont utilisés pour l'affichage des montres. Eh bien, en fait, que fait-on pour faire un produit de ce genre? On prend deux lames de verre. Entre ces deux lames de verre, on place une feuille qui contient des petites gouttelettes de cristaux liquides noyées dans une matrice. Et ces petites gouttelettes, le procédé est assez subtil parce que ces petites gouttelettes ont une taille qui est parfaitement calibrée, qui est de l'ordre du micron, une fraction de micron, qui est de l'ordre de la longueur d'onde de la lumière. Or, on sait que des petites particules ayant des dimensions de l'ordre de la longueur d'onde de la lumière ont la propriété de diffuser la lumière. C'est ce qui fait que le vitrage de tout à l'heure, normalement, il est diffusant. On ne voit pas à travers. Par contre, si on sait aligner ces petites gouttelettes de telle façon à ce que, vu à travers la fenêtre, en réalité, elles aient exactement le même indice de réfraction que le milieu dans lequel elles se trouvent, à ce moment-là, c'est comme si elles n'étaient pas là. Elles sont noyées dans un milieu d'indice de réfraction strictement égal au leur, et à ce moment-là, le milieu devient transparent. Pour arriver à aligner ces petites gouttelettes, il faut un champ électrique, et pour produire ce champ électrique, chacune des plaques de verre qu'il y a de chaque côté est revêtue d'un film très mince, transparent, conducteur de l'électricité, sur lequel on applique une tension électrique. Donc on applique une tension de quelques volts, là je fais ça avec une petite pile, la tension aligne les petites gouttelettes, le milieu devient transparent. On relâche la tension, les petites gouttelettes se désorientent dans tous les sens, et le milieu devient translucide. Alors ce produit... Et sur le marché, si vous en voulez, vous pouvez en acheter. Ça s'appelle le Privalight, c'est de la publicité clandestine, certes. Je ne vous cache pas qu'il est un peu cher. Hein, il doit être à peu près à 1000 francs le mètre carré. Alors, à quoi est-ce que ça sert? Vous allez me dire, c'est un gadget. Est-ce que ça a une utilité? Alors, la première des utilités, qui n'était pas forcément celle à laquelle nous nous attendions, ce sont les salles de soins des hôpitaux. Dans un hôpital, une salle de soins, pour les gens, les grands brûlés ou autres, est une salle stérile et les visiteurs passent à l'extérieur derrière une vitre. Et ils peuvent voir comme ça les gens qui sont dans la salle de soins, éventuellement discuter avec eux. Mais au moment des soins, on a généralement envie que la salle soit fermée. Or, mettre des rideaux sur le plan de la stérilité de la salle, ce n'est pas très très bon. Par contre, ceci, c'est du verre, donc ça peut très facilement se nettoyer, se stériliser, et ça permet, lorsqu'on le veut, de rendre la salle isolée des visiteurs. Alors, ceci est aussi utilisé dans des salles d'exposition. Sous cette forme-là, d'ailleurs, le verre peut servir d'écran de projection. Quelques PDG aiment bien mettre ça au milieu de leur bureau et puis découvrir à leurs visiteurs brusquement ce qu'il y a derrière. Le marché est encore modeste. Il faut savoir qu'il existe un autre type de vitrage électrocommandé qui sont des vitrages qui, au lieu de devenir brusquement translucides comme cela, changent progressivement de teinte en devenant de plus en plus foncés. Alors ceux-là ont un autre intérêt, c'est que devenant de plus en plus foncés, ils deviennent de plus en plus absorbants de l'énergie solaire. Et donc si par exemple vous garnissez des fenêtres de ces vitrages, suivant qu'il y a beaucoup de soleil ou pas beaucoup de soleil, suivant que vous êtes en été ou en hiver, vous pouvez choisir d'avoir des vitrages plus ou moins teintés. C'est le même principe que les verres teintés qu'il y a maintenant sur toutes les automobiles, sauf que vous pouvez régler la teinte en tournant simplement un bouton. C'est une technologie un peu plus complexe. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en reparler tout à l'heure. Pour le moment, je m'en tiens à ça. Deuxième exemple de produit. Je vous ai dit tout à l'heure, un des grands produits manufacturés à l'heure actuelle, c'est les matériaux composites, c'est-à-dire les plastiques renforcés de fils de verre. La difficulté de fabrication de ces plastiques renforcés de fils de verre, c'est qu'on a un plastique, on arrive à le faire fondre, il est plus ou moins liquide, plus ou moins fluide, il faut rentrer les fibres de verre à l'intérieur. Et le mélange intime entre les fils de verre et le plastique est quelque chose qui est extrêmement difficile à réaliser et qui fait qu'à l'intérieur de la plupart des matériaux composites, les fils de verre sont plus ou moins répartis en paquets. Il y a des endroits où il y en a beaucoup, il y a des endroits où il y en a très peu, et les propriétés mécaniques sont loin d'être optimisées. Alors, il y a quelques années, on a eu une idée extrêmement simple, qui est de dire, on a ici une filière qui fait des fils de verre. C'est la filière de tout à l'heure. Alors, il y a le four verrier, il y a toute l'installation, le verre arrive là-haut, et puis là, on a des fils de verre, plusieurs milliers de brins qui s'écoulent à 100 km à l'heure. C'est la liasse de fils de verre. Si, juste à côté, on met une filière pour filer du plastique, une filière textile, en réalité, dans le cas particulier, il s'agit de polypropylène, peu importe ce que c'est un polymère. On a l'installation qui permet de le rendre fluide, une filière adaptée à ce matériau, et on sort une nappe de fils de polypropylène que l'on fait s'écouler à la même vitesse que le verre. On la ramène ici avec la nappe de fils de verre et on mélange les deux nappes. On mélange les deux nappes et on les enroule sur une bobine. Eh bien, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un fil dans lequel sont mélangés, ici vu en coupe, des fils de verre en noir, des fils de plastique en vert. C'est ce qu'on appelle un prépreg, peu importe la terminologie, mais ce que l'on peut dire, c'est que si on réchauffe un petit peu, vous savez très bien que le verre, je vous ai dit, il se ramollit seulement aux environs de 1000 degrés. Par contre, le plastique, il se ramollit aux environs de 100 ou de 200 degrés. Donc si on chauffe aux environs de 100 ou 200 degrés, on va fondre la partie plastique sans fondre le verre. Et si ensuite on refroidit le tout, le plastique s'est répandu à l'intérieur et on a un composite parfait, c'est-à-dire un composite dans lequel les fibres de verre sont parfaitement réparties au sein du composite. Alors, ce produit s'appelle le Twintex, marque déposée, et se présente exactement comme du fil de verre ordinaire, sauf que c'est un fil composite. Alors, ce fil composite, vous pouvez le tisser, vous pouvez en faire des plaques, en faire ce que vous voulez. Vous réchauffez légèrement, le plastique se répand partout et quand vous refroidissez, vous avez un composite qui a des propriétés mécaniques très supérieures aux composites habituels. Là, on a quelques exemples de premiers produits. Ici, vous voyez que ce n'est pas forcément des produits très high-tech. Ici, c'est une armature de sac à dos. Ici, c'est un chausson de snowboard. Mais ces produits-là, si on peut leur donner des propriétés mécaniques plus importantes, on peut diminuer le poids par deux, par exemple, et ça change complètement la donne industrielle. Enfin, dernier exemple de produit. Celui-ci est pour faire rêver les dames éventuellement intéressées par le nettoyage des vitres, encore qu'il peut arriver que des messieurs soient intéressés au nettoyage des vitres également. Le rêve, le vitrage auto-nettoyant. Est-il possible de faire un vitrage que l'on n'a pas besoin de nettoyer? Alors, vous avez ici une plaque de verre qui a été uniformément salie, mais la partie de droite de ce verre a été recouverte d'un produit que je vais vous décrire dans une seconde, et pas la partie gauche. Ce produit a été laissé à la lumière ordinaire pendant un certain temps, et au bout de quelques heures, la partie droite est totalement nettoyée, et la partie gauche, elle, n'a pas bougé. Alors, qu'a-t-on fait? Eh bien, en fait, les produits qui salissent les bâtiments ou les vitrages, ce sont essentiellement des produits carbonés, ce sont des graisses. Eh bien, on sait aujourd'hui fabriquer un produit qui est à base d'oxyde de titane, sous une forme cristallisée particulière, qui a la propriété d'être photocatalytique. Photocatalytique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous l'influence de la lumière, ce produit entraîne la décomposition des graisses, une espèce de cracking catalytique des graisses. Les graisses sont décomposées et soit deviennent de la poussière, une partie devient simplement des gaz, du CO2. Et donc, de façon lente et catalytique, c'est-à-dire que le produit se régénère en permanence, il ne disparaît pas. Hein. Les graisses sont décomposées et le produit se régénère. Alors, il se trouve photo, ça veut dire qu'il faut de la lumière, mais en fait, il y a besoin de peu de lumière. Et aujourd'hui, on a des vitrages de ce genre qui sont mis à titre d'essai à un des endroits où les problèmes de nettoyage sont les plus importants, qui sont les aéroports. Les aéroports, il y a énormément de vapeur d'essence d'avion qui vient ensuite se déposer sur les vitrages. Et ces vitrages, il faut les nettoyer extrêmement fréquemment. Eh bien, les vitrages que l'on a posés sur des aéroports à titre d'essai, aujourd'hui, on peut non pas ne pas les nettoyer, mais les nettoyer avec une fréquence au moins 3 ou 4 fois plus faible, ce qui, en termes d'économie, est très important. Alors, vous allez me dire, quelle est l'adresse où je peux aller me procurer ce produit? Alors, c'est là où les Athéniens s'atteignirent, si je puis dire, parce que je ne peux pas vous donner aujourd'hui cette adresse pour la raison suivante. Et c'est là où on rentre dans les véritables problèmes économiques et industriels. Un produit de ce genre, et je pourrais vous en citer des quantités, on arrive relativement facilement, pour peu qu'on ait de bons chercheurs, à le réaliser. Mais ensuite, on ne peut le mettre sur le marché que s'il a toute une série de propriétés supplémentaires qui font qu'il soit acceptable sur le marché et que vous l'achetiez. Alors, la première de ces propriétés, c'est qu'il soit bon marché. Ce produit est encore relativement cher, mais probablement, si on mesure l'économie de coût de nettoyage, on arrive à un prix compétitif. Par contre, il faut aussi qu'il ait des propriétés telles qu'on puisse essuyer la vitre de temps en temps, voire même nettoyer la vitre avec un produit de nettoyage plus ou moins abrasif, sans que ce produit disparaisse immédiatement ou soit rayé ou abîmé. Alors là, on rentre dans une autre problématique qui est d'avoir des couches qui soient dures, qui soient résistantes, qui soient durables. Il faut évidemment que ce produit soit encore là dans 10 ans, à peu près avec les mêmes propriétés. Et donc aujourd'hui, c'est typiquement le genre de produit qui est en phase de développement industriel, c'est-à-dire on sait réaliser les propriétés que l'on souhaite, il reste à rendre le produit industriel. Alors voilà ce que je voulais vous présenter. Il me reste à conclure. Et mes conclusions sont résumées sur ce dernier transparent. D'abord, le verre reste un matériau aux possibilités de développement considérables. Je vous ai montré les développements fantastiques de transparence, par exemple, qui ont été faits depuis une trentaine d'années. Je vous ai montré 2 ou 3 produits verriers, qui sont certes plus complexes que les produits, le verre initial, mais qui sont des produits nouveaux qui vont, dans certains marchés, apporter de petites, voire de grandes révolutions. Il est évident qu'aujourd'hui, je ne vous ai pas cité par exemple un produit qui est aujourd'hui sur tous les bâtiments de bureaux par exemple, qui sont des verres qui vous apparaissent plus ou moins teintés, mais en fait ils ne sont pas teintés pour le plaisir, ce sont des vitrages qui ont la propriété en été de réfléchir à l'extérieur la lumière du soleil, la lumière infrarouge proche du soleil, de façon à éviter qu'il ne fasse trop chaud à l'intérieur par effet de serre, et en hiver, de garder à l'intérieur du bâtiment la chaleur que l'on souhaite y conserver, qui en fait est émise par un rayonnement infrarouge à 10 ou 12 microns, qui est réfléchi par ces vitrages et qui reste à l'intérieur. Donc ce sont des produits qui, eux, sont totalement intégrés au marché actuel, qui permettent d'augmenter considérablement le confort des bâtiments et de faire, le cas échéant, des économies d'énergie. Bon, je vous ai montré des produits qui sont encore à un stade de développement qui n'est pas terminé, et il y a encore dans nos cartons de nombreux autres produits de ce genre. Les marchés du verre sont extrêmement variés. Vous avez vu le bâtiment, vous avez vu l'automobile, vous avez vu les matériaux composites avec les bateaux, les skis, etc. Mais il y a aussi beaucoup de marchés qui actuellement se développent dans les technologies de l'information, en dehors de la fibre optique elle-même, qui est en verre, généralement en silice d'ailleurs de très grande pureté, tout ce qui est écran de visualisation, et même aujourd'hui, les disques de stockage magnétique de vos ordinateurs commencent à être systématiquement en verre, parce que les propriétés du verre, mécaniques en particulier, sont très supérieures pour ces disques aux propriétés de l'aluminium qui était utilisé jusque-là. Enfin, pour terminer, je dirais que de nombreuses questions restent encore ouvertes. Des questions scientifiques d'abord. Je vous ai dit au début de cet exposé que le verre, c'était un matériau amorphe. Mais au fond, je vous en ai dit relativement peu. Je vous ai simplement dit que les atomes et les molécules d'un verre sont désordonnés. Eh bien, aujourd'hui, on ne sait pas très très bien définir ce que c'est que le désordre. Alors, on sait produire du désordre, ça c'est sûr, hein, mais savoir exactement caractériser le désordre. Est-ce que ce désordre est un désordre que l'on retrouve à toutes les échelles ? Est-ce un désordre à petite dimension et un ordre à grande dimension, la verre, en fait, on sait que c'est un désordre à grande dimension. Mais aux petites dimensions, retrouve-t-on un ordre partiel à petite dimension ? Comment caractérise cet état de désordre ? Il s'avère beaucoup plus difficile de caractériser le désordre que de caractériser l'ordre d'un cristal. Un cristal, on sait qu'il y a un certain nombre de structures possibles et puis rien d'autre. Encore qu'on a récemment découvert ce qu'on appelle les quasi-cristaux, qui est encore quelque chose qui est très ordonné, tout en ne l'étant pas complètement. Et le désordre des verres est quelque chose qui est encore, pour les scientifiques, une question ouverte. Et puis, il y a encore d'innombrables questions techniques, et je voulais terminer sur un exemple de question technique assez originale. Ceci. Alors ceci, vous voyez, c'est du verre. En fait, c'est de la silice assez pure. Vous voyez que c'est extrêmement souple. Vous allez me dire, c'est formidable, vous savez faire des tiges de verre très souples. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, ceci a été fabriqué par une éponge au fond de la mer, à des milliers de mètres de profondeur, donc à très basse température, et ce sont ce qu'on appelle des spicules par lesquelles les éponges s'accrochent au sol. Eh bien, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment ces éponges fabriquent ces spicules, comment elles arrivent à fabriquer, on sait à peu près comment c'est constitué, on connaît des procédés d'isolgel qui permettent de faire le même genre de choses, mais en réalité, si vous me demandiez aujourd'hui de faire dans une de mes usines une pièce de verre de ce genre, j'arriverais, mais ce serait vraiment très difficile. Hein. Les éponges font ça naturellement. Alors, ça ne veut pas dire que nous ayons décidé à Saint-Gobain d'avoir des élevages d'éponges dans nos usines, mais peut-être que ce ne serait pas totalement inutile. Bien, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie vivement de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.
Je voudrais vous poser une question peut-être un peu technique pour l'auditoire, mais je voudrais savoir quelles sont les caractéristiques d'absorption de la lumière par un verre. On dit souvent que les verres absorbent les UV, et en particulier dans l'infrarouge.
Oui, alors en fait, naturellement, ça dépend du verre. Hein. Mais en gros, la plupart des verres transmettent parfaitement la lumière visible. Et puis ensuite, ils ont des bandes d'absorption dans l'ultraviolet et dans l'infrarouge. Ça tombe assez vite. Dans l'infrarouge, ça dépend de ce que vous mettez dans le verre. En réalité, l'essentiel de l'absorption infrarouge est celle du radical OH. Et il y a toujours un peu de radical OH qui traîne dans un verre, qui donne une bande d'absorption assez caractéristique à quelques microns. Et puis, suivant ce que vous mettez, le verre idéal que tous les verriers cherchent à faire, c'est le verre qui soit parfaitement transparent dans le visible et parfaitement absorbant dès qu'on s'éloigne un tout petit peu dans l'infrarouge et l'ultraviolet. On peut s'en rapprocher, c'est compliqué. Aujourd'hui, chaque verre a sa courbe d'absorption. Et vous avez des silices très purs qui sont très transparentes dans l'infrarouge et une partie de l'ultraviolet.
Monsieur.
Trois questions. Après, premièrement, comment fonctionnent les corps qui abaissent la température de fusion ? Deuxième question, est-ce qu'on peut prévoir les qualités qu'aura le verre en fonction de la composition du verre ? Et troisième question, comment expliquer la phase visqueuse ?
Oui, alors ça, c'est des questions sévères. Hein. Alors, comment fonctionne l'abaissement de la température ? Là, je n'irai pas dans des explications très complexes, je ne serai d'ailleurs pas tout à fait capable de vous donner, mais en fait, il s'agit de figer les mouvements des atomes et des molécules qui forment le liquide. Et bon, il se trouve que du fait de la taille des molécules que l'on insère et des liaisons chimiques, en fait, le passage à la phase solide, c'est la constitution de liaisons chimiques. Donc si on met des atomes ou des molécules qui favorisent le développement de certaines liaisons chimiques, ces liaisons chimiques vont se produire et le corps va se solidifier. Et donc c'est en fonction de la nature des liaisons chimiques qui peuvent se produire que la température de fusion se détermine. Alors la seconde question était sur... Alors ça c'est une excellente question à laquelle la réponse est oui sur... des variations très faibles des composants. Mais vous avez vu qu'avec 6, 8 ou 10 composants, si on veut explorer l'espace des composants possibles du verre, c'est un espace multidimensionnel gigantesque. Aujourd'hui, on ne sait pas, en mettant la liste des composants dans des proportions déterminées, dans la plupart des cas, dire exactement quelles sont les propriétés optiques, mécaniques, chimiques du verre. Si on est à un point... que l'on connaît avec un verre particulier, en général, on sait dire dans quel sens ça va varier, suivant qu'on met un petit peu plus de ci ou un petit peu plus de cela. Mais c'est généralement dans des régions de cet espace multidimensionnel qui restent relativement limitées autour des points connus. Et c'est là, ça aurait pu être effectivement un élément de ma conclusion, une immense fraction de cet espace multidimensionnel reste complètement inexplorée. Et impossible à prévoir théoriquement. On a aujourd'hui des approches de modélisation mathématique qu'on appelle la dynamique moléculaire, qui permet, à partir des principes de base, de calculer un matériau avec quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'atomes. Mais on ne sait pas faire ce qu'est le matériau réel, qui a évidemment des quantités d'atomes beaucoup plus grandes. Donc ceci n'a qu'une valeur relativement limitée. On progresse. Et la troisième question ? Oui, on l'explique. Là encore, ce sont des mécanismes essentiellement physico-chimiques liés aux interactions entre les atomes et les molécules. C'est la constitution, en fait, c'est un petit peu comme les polymères eux-mêmes sont généralement des verres. C'est-à-dire qu'on a des chaînes de liaisons chimiques qui se produisent, mais qui ne s'étendent pas sur tout le volume du liquide et donc qui n'arrivent pas à figer totalement. Donc on a des systèmes qui sont partiellement liés, qui peuvent se déplacer partiellement les uns par rapport aux autres, mais pas suffisamment pour que le milieu soit complètement liquide.
Monsieur en haut.
Oui, bonjour, merci pour cet exposé. Je voudrais savoir pourquoi le verre est transparent ou comment le rend-on transparent ou comment explique-t-on sa transparence ?
Oui, c'est une excellente question. Le verre est transparent, si je voulais vous répondre de façon savante, parce que c'est en fait un isolant à gap élevé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le matériau vert, il y a des niveaux d'énergie, comme tous les matériaux qui sont, dans le cas particulier, liés aux électrons et à la façon dont les électrons s'organisent autour des atomes du vert. Et pour absorber, il faut que la fréquence de la lumière puisse faire passer des électrons d'un état d'énergie à un autre. Eh bien, s'il n'y a pas de niveau d'énergie dont la différence correspond à la fréquence de la lumière visible, on ne peut pas absorber cette lumière parce qu'il n'y a pas de niveau d'énergie d'arrivée. Donc, c'est ce qu'on appelle un système à grand gap. Et donc, il y a absorption, en particulier dans l'ultraviolet, parce que là, on a des énergies qui permettent de faire passer l'électron dans un état qui existe beaucoup plus élevé. Et puis, il y a des bandes d'absorption dans l'infrarouge. Alors, La seconde partie de la question, c'était comment rend-on un verre transparent ? Alors en réalité, il est vrai, je vous l'ai dit, que les verres anciens étaient très opaques parce qu'ils étaient pleins d'impuretés et que souvent l'absorption d'un milieu est due à des impuretés qui sont dans ce milieu, des atomes d'impuretés qui, elles, ont des états d'énergie qui permettent d'absorber la lumière. Donc ce sont essentiellement la présence ou l'absence d'impuretés et la coloration des verres se fait en incluant dans la composition généralement des petites quantités de métaux qui absorbent aux longueurs d'onde que l'on veut absorber et qui donc donnent la teinte finale du verre.
Monsieur.
Bonjour. Monsieur, je fais justement suite à votre explication sur les impuretés.
Oui.
Or, j'ai remarqué dans ce que vous avez montré que les fours de verrier, c'était des fours avec des brûleurs et vraisemblablement avec une flamme.
Oui.
Est-ce que cette flamme... Si la combustion n'est pas parfaitement réglée, est-ce que ceci n'introduit pas justement des impuretés ?
Pas trop. En fait, d'abord, la combustion est parfaitement réglée, je pourrais vous dire. Ensuite, il y a toutes sortes de fours. Il y a des fours à brûleur. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus des brûleurs à oxygène qui donnent des flammes encore beaucoup plus pures que les brûleurs à air. Il y a des fours électriques également. En réalité, le problème de ces fours n'est pas tellement... Alors, il y a aussi des impuretés qui peuvent venir des réfractaires verriers eux-mêmes, hein, des réfractaires du four. Le problème de ces brûleurs n'est pas tellement les impuretés dans le verre. Il est plus la production dans les fumées d'oxyde d'azote, par exemple, ou d'oxyde de soufre, que l'on essaie d'éliminer le plus possible. Mais les impuretés amenées par les brûleurs ne sont pas des phénomènes significatifs.
S'il vous plaît. Une question à propos de l'écologie. J'ai entendu récemment un constat scientifique qui disait que le verre était assez polluant. Alors, je pense que c'est en fait le retraitement du verre qui doit être assez polluant, les industries qui génèrent le retraitement. Et donc ça, c'était pour savoir si ce constat objectif scientifique était confirmé, si c'était le retraitement du verre qui polluait énormément. Et deuxième question, à propos de la vitrification, qui là serait, on va dire... mon a priori serait pour la conservation des éléments radioactifs, on fait une vitrification, si ça vous concerne en tant que tel dans la recherche industrielle.
Alors, en ce qui concerne la première question, je pense, bon, je ne connais pas la référence à laquelle vous faites allusion, que quand on parle de pollution, bon, le verre est un matériau que nous considérons, nous, comme écologique, parce qu'il se recycle très facilement. Hein. Et aujourd'hui, pour faire des bouteilles, par exemple, on peut utiliser pratiquement 100% de bouteilles recyclées. Les problèmes écologiques posés par le verre sont plus, comme je l'indiquais il y a une seconde, dans le fait que pour faire du verre, il faut chauffer. Et pour chauffer, il faut brûler quelque chose. Et généralement, c'est du fioul ou du gaz. Ça peut être de l'électricité, mais cette électricité, il a bien fallu la produire. Et donc, vous savez que lorsqu'on brûle des énergies fossiles, on produit de l'effet de serre. Donc, premier problème, le fait qu'on fait du CO2 structurellement, puisqu'il faut de l'énergie. Deuxième problème, on peut, suivant les techniques de fusion, produire des oxydes d'azote, qui sont également des gaz à effet de serre que l'on cherche à éviter. Aujourd'hui, on a réussi là à faire de grands progrès, parce que autant le CO2 est inévitable, quantité d'énergie donnée, on renvoie du carbone dans l'atmosphère, autant les oxydes d'azote, ça c'est une question de réglage, de fonctionnement des flammes en particulier, et on a pu réduire considérablement la production d'oxyde d'azote. Donc aujourd'hui, je dirais, la limite que l'on voit au verre actuel, c'est le fait qu'il faut chauffer, et que ça, il n'y a rien à faire, il faut chauffer à 1100 degrés ou à 1300 degrés, donc il faut de l'énergie. Ma conviction personnelle serait de dire que la façon la plus écologique de le faire est aujourd'hui d'avoir de l'énergie nucléaire, parce qu'elle ne produit pas d'effet de serre, mais je ne veux pas engager ce débat-là. Alors maintenant, vous aviez une autre question qui était... La vitrification des déchets. Alors, nous ne sommes pas, nous, impliqués directement dans la vitrification des déchets qui pose tout le problème de l'influence de la radioactivité sur ces matériaux. Et le verre est utilisé parce que, du fait même que c'est un matériau amorphe, ça n'est pas inintéressant sur le plan scientifique, le fait qu'il soit irradié par du rayonnement ne modifie pas fondamentalement sa structure. Si vous prenez un cristal et que vous l'irradiez, vous déplacez des atomes et du coup, le malheur cristal, il ne sait plus où il en est et sa structure cristalline est perturbée. Si vous avez un matériau amorphe, vous déplacez des atomes, mais comme ils sont de toute façon désordonnés, ça ne change pas grand-chose. Donc c'est un peu la base de l'utilisation de verre pour la vitrification et la conservation des déchets. Alors, nous ne sommes pas directement concernés, mais je dirais notre expertise est de temps en temps quelque chose qu'on apporte aux spécialistes de la question pour mieux les aider à mieux comprendre les matériaux verriers qu'ils utilisent.
Monsieur, là.
Bonjour. Pouvez-vous nous parler de la porosité du verre ?
De la porosité du verre. Alors, je dirais, le verre, tel que vous l'utilisez habituellement, n'est pas poreux. Mais on peut le rendre poreux. En réalité, on peut... d'ailleurs, une des phases que je n'ai pas évoquées de la fabrication du verre est ce qu'on appelle l'affinage. Je vous ai montré le four dans lequel on fond la composition. Et puis, quand on amène ce verre liquide vers l'endroit où, visqueux, on va le former pour en faire des bouteilles ou du verre plat, en général, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de bulles à l'intérieur. On cherche à éliminer ces bulles. Et pour éliminer ces bulles, en général, on réchauffe le verre à cet endroit-là pour que les bulles remontent à la surface et s'éliminent. C'est ce qu'on appelle la phase d'affinage du verre. Si on ne fait pas ça, alors on obtient du verre qui peut inclure beaucoup de bulles.
Alors ces bulles, on en trouve d'ailleurs, il y a même les verriers de Biot, par exemple, qui font du verre dans lequel il y a des bulles qui sont considérées comme un élément esthétique. Mais on peut aller plus loin, ces bulles en général sont à l'intérieur du verre et donc il n'y a pas de porosité. Là, on dit que c'est la porosité fermée. Par contre, on peut faire du verre, ce qu'on appelle du verre mousse, dont la porosité est ouverte, c'est-à-dire à ce moment-là, ce verre est poreux, un peu comme une éponge, et on peut faire passer de l'eau à travers. On peut utiliser ce type de verre mousse, soit comme isolant, c'est un assez bon isolant thermique et acoustique, soit éventuellement comme filtre. Mais le verre, naturellement, n'a pas de porosité. Alors, évidemment, du verre très mince avec des gaz très légers, éventuellement, ils peuvent passer à travers, comme d'ailleurs à travers tous les matériaux. Mais le verre, normalement, n'est pas un matériau poreux. Pardon ? Les éprouvettes ? En chimie ? Pourquoi vous avez votre liquide est passé à travers votre éprouvette ? Non, là, c'est le problème, là, ça n'est pas la porosité, c'est éventuellement l'attaque hydrolytique. Donc, c'est plus de la surface du verre. Et donc, il y a des compositions verrières qui sont plus ou moins sensibles à l'attaque hydrolytique. C'est-à-dire que quand on met quelque chose au contact du verre, il peut pénétrer un peu. Mais il va pas, c'est rare qu'il passe à travers. Mais il peut pénétrer sur quelques dizaines d'épaisseurs moléculaires. Et à ce moment-là, soit ça modifie le verre, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait le verre trempé en particulier, le verre trempé chimique, ce qu'on appelle le verre trempé chimique, soit simplement perturber les réactions chimiques que vous faites dans votre éprouvette. Donc pour avoir du verre de bonne qualité pour y faire de la chimie, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, choisir une composition qui soit très résistante à l'attaque hydrolytique. Et ça, on sait qu'il y a un certain nombre de composants qui rendent la surface du verre plus résistante à ce genre d'attaque. Mais il est rare que le liquide coule en dessous de l'éprouvette.
Nous allons prendre encore deux ou trois questions, monsieur, madame.
Oui, bonjour. J'ai entendu parler du fait que le verre dans le vitraux des cathédrales s'écoulait, donc je voudrais savoir si, aux températures ambiantes, le verre est totalement solide ou suffisamment visqueux pour pouvoir s'écouler.
Alors, c'est une excellente question dont la réponse est non. Le verre ne s'écoule pas. Mais il y a eu un débat, vous avez tout à fait raison, il y a eu un débat qui ne s'est terminé que récemment. Et un certain nombre de scientifiques pensant que, comme je vous l'ai dit, le verre est un liquide figé. Donc l'idée, c'est de dire, après tout, c'est quand même un liquide. Donc peut-être il va avoir une viscosité. En fait, la viscosité augmente jusqu'à donner le solide. Et donc on peut se dire, même si la viscosité est énorme dans le solide, il y a encore une viscosité et donc le verre va s'écouler. Et cette théorie était étayée par des gens qui avaient prétendu mesurer l'épaisseur des vitraux des cathédrales et trouver des vitraux qui étaient un petit peu plus épais en bas qu'en haut pour une même pièce de verre. Et donc ils en avaient conclu que le verre s'était légèrement écoulé dans le vitrail. Alors en multipliant les mesures, on s'est aperçu que dans d'autres cas, le verre était plus épais en haut qu'en bas. Et donc aujourd'hui, après une analyse scientifique plus sérieuse, on peut dire que non, le verre à température ordinaire ne s'écoule absolument pas. Mais c'est une question qui n'a été élucidée totalement que récemment.
La dévitrification.
Oui.
À cette
oui.
Si on le cuit trop.
Oui. Alors. Oui. Alors la dévitrification est le phénomène suivant. Je vous ai montré tout à l'heure que suivant la façon dont on passait la courbe de refroidissement, on pouvait soit chuter vers le cristal, si je peux dire, soit aller doucement vers le verre. En réalité, il peut parfaitement se passer qu'à certains endroits dans votre matériau, on passe vers le verre, et à d'autres, on passe vers le cristal. Ou il peut se passer qu'ayant un verre, à certaines températures, il y ait à des endroits la formation d'un cristal. C'est effectivement un phénomène local qui donne lieu à l'existence de petits cristaux qui peuvent se développer plus ou moins, et des petits cristaux répartis dans le verre ont le même effet que mes petites gouttes de cristal liquide de tout à l'heure, elles le rendent translucide. C'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle le verre opale. Le verre opale est un verre translucide dans lequel on a fait recristalliser des petits cristaux. Et alors il y a un autre exemple bien connu de verre avec des petits cristaux, c'est ce qu'on appelle les vitrocéramiques. Les dessus de cuisinière en vitrocéramique, c'est en fait du verre dans lequel, au cours d'un recuit savant et avec des impuretés savamment distribuées dans le verre, on fait croître de façon assez régulière des petits cristaux, qui sont à ce moment-là de la silice cristallisée. Et il se trouve que dans le cas particulier, le coefficient de dilatation du verre et des cristaux est opposé. Les uns se dilatent, les autres se contractent avec la température. Et le résultat, c'est qu'on fait un matériau qui est extrêmement stable en température et qui, de ce fait, résiste à des chocs thermiques très importants, d'où l'utilisation pour faire les dessus de cuisinière. Donc ce problème de la cristallisation est très, très important.
On va prendre encore deux questions.
Madame. Il y avait un monsieur qui attend depuis longtemps.
Bonjour,
c'est
monsieur.
Pas, c'est parce que je le vois. Alors là, bonjour. Je ne vois pas qui me pose la question actuelle.
Madame, bonjour, monsieur. Oui, je suis là. Oui. Quelles sont les caractéristiques du cristal d'arc et des fibres optiques qui conduisent les faisceaux laser? Quant aux propriétés optiques, j'ai trois questions. Des panneaux solaires.
Panneaux solaires.
Et pourquoi les prismes dont on nous parle au lycée, quelles sont leurs caractéristiques et pourquoi ils décomposent la lumière, s'il vous plaît. Merci.
Alors, la première question, le cristal. Alors là, vous avez raison de me poser cette question parce qu'il y a un problème de terminologie qui introduit souvent de la confusion. Ce qu'on appelle le cristal des cristalliers, c'est-à-dire le cristal d'arc, les verres en cristal, n'est pas ce que j'ai appelé, moi, un cristal. C'est en fait un verre. C'est un verre qui contient du plomb. Et le fait qu'il contienne du plomb plus quelques autres ingrédients lui donne deux caractéristiques. La première, c'est d'être très blanc, très transparent. Et la seconde, c'est d'avoir des propriétés mécaniques particulières qui font qu'on peut le fabriquer en épaisseur très mince et qu'en épaisseur très mince, il a des fréquences de résonance qui sont considérées comme agréables. Vous pouvez faire une pitchette sur un verre en cristal, ça donne un son particulier. Mais la structure de ce cristal n'est pas la structure cristalline que je vous ai décrite tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle le verre cristal, mais c'est en fait un verre. Et c'est en fait une terminologie déposée d'une certaine façon, et il faut pour ça qu'il y ait du plomb. Aujourd'hui, les cristalliers ont un petit problème, c'est que le plomb qu'il y a dans ce verre peut éventuellement relarguer, si vous mettez votre cognac dans une carafe en cristal, le plomb qu'il y a dans le cristal relargue très lentement dans votre cognac, et si vous ne le buvez pas rapidement, ce que je vous engage donc à faire, au bout d'un certain temps, vous pouvez avoir des concentrations de plomb relativement importantes dans le cognac. Donc aujourd'hui, le cristal est généralement interdit pour faire les carafes. Alors on sait faire du verre qui a les mêmes propriétés, qui est aussi blanc et qui a les mêmes propriétés mécaniques, mais sans plomb. Mais comme la terminologie cristal déposée, c'est il y a tant de plomb dans le verre, ça ne s'appelle plus du cristal. Et sur le plan commercial, ça ne marche plus. Donc il y a un petit problème pour les cristalliers qui est le suivant. Mais le point important est de ne pas confondre le verre cristal, qui est du verre au plomb de qualité exceptionnelle, et la structure cristalline, qui est la structure très ordonnée, qui est différente de la structure du verre. Alors la seconde question, rappelez-la moi, excusez-moi. Alors les fibres de verre, c'est différent. Les fibres de verre, c'est en fait de la silice extrêmement pure que l'on fabrique de telle façon qu'elle absorbe le moins possible la lumière. Vous parlez des fibres optiques ou des fibres...
Les fibres de verre...
Pourquoi ? Le renforcement ? Oui, c'est ça, les fibres optiques. Alors les fibres optiques sont évidemment aussi très blanches, mais en fait, c'est essentiellement de la silice de très grande pureté. Et en plus, généralement, il y a des problèmes. Alors, ça m'amène à votre troisième question sur le prisme. La question sur le prisme, pourquoi le prisme décompose le spectre? Eh bien, une des grandes propriétés optiques des matériaux transparents, c'est leur indice de réfraction. Et l'indice de réfraction est quelque chose qui, en fait, caractérise la vitesse à laquelle la lumière se propage dans les matériaux. Dans un matériau comme le verre, la lumière, elle se propage, puisque le verre est transparent. Mais elle ne se propage pas tout à fait à la même vitesse suivant que vous avez de la lumière rouge, verte, jaune ou bleue. Et donc, comme elle ne se propage pas tout à fait à la même vitesse, il est relativement facile de démontrer que si vous envoyez un faisceau de lumière blanche qui contient toutes ces couleurs-là, à la sortie, comme les couleurs se sont propagées à des vitesses différentes, s'il y a un certain angle, on montre tout ça assez facilement, elles repartent dans des directions un peu différentes. Donc ça, c'est la propriété de dispersion optique du verre. On peut le faire avec n'importe quel verre, mais chaque verre a sa caractéristique de dispersion. Il y en a qui ont des indices de réfraction qui varient plus avec la longueur d'onde, d'autres moins avec la longueur d'onde. Ils ont tous une variation avec la longueur d'onde, dont tous les verres permettent, sauf la silice très pure, permettent en gros de disperser la lumière. Encore la silice doit le permettre aussi. Et c'est considéré comme assez gênant d'ailleurs pour les gens qui font des optiques, qui en général sont obligés de compenser ce phénomène avec des plusieurs prismes ou plusieurs optiques qui compensent la dispersion de la lumière.
Et les panneaux solaires ?
Les panneaux solaires, ça c'est autre chose. Les panneaux solaires, c'est un matériau qui transforme l'énergie solaire en électricité. Le verre n'intervient généralement comme substrat. Ce sont des semi-conducteurs, mais ça n'est pas du verre. Le verre est un substrat qu'on utilise pour déposer la photopile, hein, qui produit l'effet voltaïque.
La oui. dernière question.
Oui, bonjour, monsieur.
Bonjour. Moi, je suis à votre disposition jusqu'à ce soir, si vous voulez.
Moi, j'attendais le micro depuis pas longtemps.
Oui, c'est pour ça que je vous ai signalé. Hein.
Bon, je vous remercie beaucoup. Je vais vous poser... J'avais deux questions. Enfin, ça fait deux questions plus une remarque. D'abord, vous nous avez présenté comment on pouvait faire en sorte que les lunettes de soleil oui. puissent être électrocommandées par les rayons du soleil.
Non, ça, ce hein? serait photocommandé.
Ah bon,
photocommandé, ça existe, c'est les photochromes qui changent de teinte suivant l'intensité de l'éclairage du soleil.
Voilà,
et puis moi, ce dont je vous ai parlé, c'est des électrocommandés que vous commandez vous-même à partir d'une tension électrique avec un bouton. Vous décidez si elle doit être transparente ou non.
D'accord. Mais sinon, le principe des lunettes de soleil, comment ça se fait?
Alors ça, c'est aussi des photochromes, vous voulez dire, ou des lunettes de soleil ordinaires.
Des lunettes de soleil foncées en général.
Ben ça, c'est simplement qu'on met dans le verre, qui d'ailleurs est souvent du plastique pour les lunettes de soleil aujourd'hui, des atomes qui absorbent les longueurs d'onde que l'on va absorber, donc qui absorbent en particulier le rayonnement ultraviolet et une partie de la lumière visible. Donc, elle protège de l'ultraviolet. Ça, c'est simplement, comme je l'expliquais tout à l'heure, une question d'absorption de certaines longueurs d'onde par des atomes noyés dans le verre ou dans le plastique.
D'accord.
Alors, ce qui est plus intéressant, je rebondis sur votre question, c'est les verres photochromes qui changent de teinte suivant l'éclairage. Alors là, c'est beaucoup plus subtil parce qu'on met dans le verre ou dans le plastique des systèmes qui sont photochimiques, c'est-à-dire, en fait, sous l'influence de la lumière, des molécules se font ou se défont. Et suivant que ces molécules existent ou n'existent pas, l'absorption de la lumière n'est pas la même. Et ce phénomène est réversible. Et ça, c'est un phénomène qui est relativement subtil et qui aujourd'hui est bien maîtrisé sur les plastiques et commence à être bien maîtrisé sur le verre aussi.
Et ma ultime dernière question, ma dernière question, ce serait les verres correcteurs. Comment on les obtient? Est-ce que ce sont des réactions chimiques ou des ajouts de...
Non, c'est une question de forme uniquement. Les verres correcteurs, c'est des verres qui ont une forme particulière qui en fait une lentille. Ça, c'est le problème de la fabrication des lentilles. Et donc, c'est une question uniquement de forme et d'indice de réfraction, mais surtout de forme.
Bien, merci beaucoup.